Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h sur Radio SBS, vous écoutez le programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les dimanches, on commence avec le personnage qui a marqué la semaine. Mesdames et messieurs, le personnage de la semaine, c'est Eddie Merckx, surnommé le cannibale. Il est sans conteste l'une des figures les plus emblématiques du cyclisme. Né le 17 juin 1945 en Belgique, il a fêté ses 80 ans cette semaine. L'icône du plat pays possède un palmarès à ce jour inégalé. Alors, prêt à plonger dans l'univers fascinant de cet athlète hors du commun, on écoute le plus belge de l'équipe de SBS French, François Vantôme.
Il est le roi du vélo. Le monde entier l'applaudit. Bravo pour Eddy. Quand il se met à rouler, rien ne peut plus l'arrêter. Il remporte tous les prix pour faire plaisir aux amis.
47 ans après ses derniers coups de pédale en compétition, en 78, après 14 ans au plus haut niveau, le Bruxellois demeure une icône au plat pays où il porte le titre de baron en tant que meilleur ambassadeur de la Belgique à travers le monde. C'était le roi Albert II qui l'a affirmé et qui lui a attribué cette distinction en 1996, ou plutôt 1996, pour nos amis belges. Mais revenons à sa carrière sportive incroyable. Ses débuts sont marqués par une série de performances impressionnantes qui ne tardent pas à attirer l'attention. En 1966, il remporte plusieurs épreuves importantes, mais c'est véritablement en 1969 qu'il entre dans la légende. Dans les années 60-70, la Belgique est secouée par des conflits linguistiques à leur paroxysme, qui s'ajoutent à la crise économique. Dans ce contexte, Eddy Merckx rassure. Les Belges pédalent avec lui. « Êtes-vous flamand ou wallon, grand seigneur ?» Le cannibale du vélo avait répondu cette phrase pour l'histoire et la concorde des peuples. « Je suis belge. » Et les Belges pédalent plutôt bien. Mais ce pays de vélo attendait un vainqueur du Tour de France depuis 1939 et Silver Mass. Le manque est comblé le 20 juillet 1969. L'exploit de Merckx sur Terre est plus impressionnant pour les Belges que celui de Neil Armstrong sur la Lune un jour plus tard. Merckx ne se contente pas de gagner, il écrase la compétition établissant un record de 4 victoires d'étape lors de ce tour.
François, c'est le début d'une belle histoire avec un palmarès incroyable.
Le palmarès d'Eddy Merckx est tout simplement inégalé. Il a remporté 525 courses professionnelles, un chiffre qui dépasse tous ses contemporains. Parmi ses victoires, on trouve 5 Tours de France, 69, 70, 71, 72 et 74. Et il est également le seul coureur à avoir remporté le Giro d'Italia 5 fois. Son palmarès inclut 3 titres de champion du monde, 67, 71 et 74. Il a aussi détenu, durant 28 ans, le record du monde de l'or et remporté les 5 monuments du cyclisme, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Seuls ses compatriotes Rick Van Looy et Roger de Vlaeminck ont réussi pareille performance. Un objectif que poursuit aujourd'hui le Slovène Tadej Pogačar, parfois présenté comme le successeur d'Eddy Merckx.
J'en profite pour vous interrompre, François. Pourquoi ce surnom bizarre, le cannibale ?
Alors, à l'occasion de ses 80 ans, Eddy Merckx a raconté récemment l'histoire de ce surnom qui a forgé la légende de l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Le cannibale Ce n'est pas lui qui l'a choisi. C'est une petite phrase lancée presque par hasard par la fille de Christian Raymond, alors son coéquipier chez Peugeot. Il avait dit à sa fille « Regarde, c'est celui qui ne nous laisse pas gagner ». Et celle-ci a répondu « C'est un cannibale ». En effet, sa façon de courir, souvent caractérisée par une intensité et une détermination sans pareil, lui a permis de gagner presque toutes les courses auxquelles il participait. Merckx ne se contentait pas de victoire dans une ou deux courses, il voulait tout gagner avec panache. Cet aspect de sa personnalité et de sa carrière a contribué à façonner son image de cannibale, un coureur prêt à tout pour dévorer ses rivaux et conquérir chaque course.
Oui, mais voilà, cette domination à outrance suscitait aussi quelques animosités, de la jalousie du peloton et malheureusement autour aussi.
Et en effet, la carrière du Belge est aussi marquée par l'animosité que suscitent ses nombreux succès. Merckx gagne beaucoup, une course sur trois en moyenne. Pour certains même, il gagne trop. Son seul tort est de ne pas être français, juge Luc Varenne, journaliste belge face à la lassitude qui gagne les médias de l'Hexagone. Le 11 juillet 1975, dans l'ascension du Puy de Dôme, Merckx, en jaune et en quête d'un sixième tour, reçoit un coup de poing au foie venu d'un spectateur français qui écopera d'ailleurs d'une peine de prison avec sursis. Le lendemain, Merckx est victime d'une défaillance qui profite à Bernard Thévenet, vainqueur de sa première grande boucle quelques jours plus tard. Si le Français a été le premier a privé le roi Merckx d'une victoire à la pédale sur le tour, c'est surtout la rivalité entre le Belge et l'Espagnol Luis Ocana qui a agité les foules lors des tours 71 et 72 d'Anthologie, remportés par le Belge après des combats épiques qui ont aussi fait la légende du cannibale.
Et François, comment se porte Eddy Merckx aujourd'hui ?
C'est toujours une des personnes les plus appréciées du pays. Le roi Eddy Merckx a été reçu jeudi après-midi par le roi Philippe, coup d'envoi d'une série d'hommages sobres en Belgique où il est une icône. Il est discret à l'égard de ses habitudes. Eddy continue d'ailleurs depuis toujours à faire des tours en vélo le week-end avec ses amis. Cependant, ces derniers temps, les fans de l'ancien coureur se sont inquiétés des problèmes de santé du Bruxellois qui a subi une intervention chirurgicale à une hanche en décembre après une chute à vélo sur un passage à niveau. Il a de nouveau été opéré le 22 mars en raison de ses complications. Ça va mieux de jour en jour. Je dois encore prendre énormément d'antibiotiques, mais j'espère pouvoir bientôt remonter à vélo, car cela me manque. Les journées sont longues, mais je crains de ne pas pouvoir participer au Tour 2025, plaisante-t-il. Eddy reste et restera toujours la fierté de tous les Belges, et quoi de plus beau que de recevoir un autre hommage d'une autre légende belge, Salvatore Adamo, qui spécialement pour son anniversaire lui a chanté un hommage ému et tendre.
Cher Eddy, cher Eddy, toute la Belgique t'aime et te dit merci. Et le reste du monde aussi, joyeux anniversaire et longue vie. Cher, à bientôt, j'espère.
Merci, 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 merci. Quel beau mot.
Une chanson de 2025 qui s'appelle « Été 22 », interprétée par Émilie Marge dans son album « Amour bandit ». Cette semaine était lancée la campagne 2025 de « So France, So Good », une initiative de l'ambassade de France en Australie qui vise à promouvoir la gastronomie française. L'occasion pour nous de rencontrer Monsieur l'ambassadeur afin qu'il nous partage son amour pour la bonne cuisine.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Nous sommes le 17 juin, c'est le lancement de So Friends So Good, la nouvelle campagne menée par l'ambassade de France. Nous sommes avec monsieur l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, So Friends So Good ?
So Friends So Good, c'est une opération qui vise à mettre à l'honneur pendant 2 semaines en Australie la gastronomie française. Alors cette gastronomie, elle est riche, elle est vivante. Elle fait participer des centaines de personnes de restaurants en Australie dans cette tradition qui nous est chère de partage de notre patrimoine gastronomique dans toutes les formes. On va de la plus sophistiquée à la cuisine de bistrot, nord du Queensland jusqu'au sud-est du Victoria, jusqu'au Western Australia. Partout, des entreprises, de l'agroalimentaire, des restaurants participent à cette grande opération de valorisation de notre patrimoine.
Oui, voilà, parce qu'on imagine cuisine, on imagine les repas, les restaurants, mais il y a aussi les experts, les produits qu'on importe. C'est très vaste comme... promotion de la gastronomie française.
C'est à la fois la gastronomie française, notre culture, un secteur économique dynamique dans les échanges entre la France et l'Australie, mais c'est aussi un art de vivre qui dépasse largement évidemment celui de la table et qui fait vivre toute une filière en France comme en Australie. Et donc il était plaisant pour nous de lancer cette grande opération de célébration et de rassembler, comme vous le dites très clairement et très bien, sur le fait que beaucoup de gens participent en fait à ce qui arrive dans notre assiette à la fin, et donc on crée cette fête pour les célébrer tous.
C'est un secteur dans lequel on est amis, la France et l'Australie ?
Alors, on est amis de manière générale, mais en particulier dans le domaine de la gastronomie. Moi, ce que j'adore découvrir, pour être franc, c'est la manière dont des chefs australiens s'emparent de la gastronomie française et de sa tradition pour aussi la réinventer dans tous les restaurants que j'ai pu fréquenter, des Australiens qui font à leur sauce, en fait, en ajoutant aussi des herbes, des condiments plutôt australiens et qui réinterprètent la gastronomie française. Et au fond, ce qui est le plus fort, c'est que ce soit un patrimoine vivant. On est fiers de nos racines, mais on aime aussi quand il est transformé et qu'il est offert sous une forme différente.
C'est vrai qu'on imagine moins un chef australien faire des escargots en persillade ou des cuisses de grenouille, mais est-ce qu'il y a la volonté de la part des Australiens d'importer justement cette gastronomie française ? Est-ce qu'il y a une demande ou est-ce qu'il y a un fantasme de la gastronomie française en Australie ?
Il y a un amour de la gastronomie française. Il y a parfois une fascination sur notre capacité à rester à table pendant aussi longtemps. Est sorti la semaine dernière un classement mondial du temps passé à table dans les différents pays. Et évidemment, vous ne serez pas surprise, le numéro 1, toutes catégories confondues, c'est la France. Ce qui montre que c'est pas juste le fait de manger, c'est aussi ce qu'on aime à travers ça, c'est le partage, l'échange. Ça va bien au-delà, en fait, d'ailleurs, d'un simple besoin alimentaire, d'un art gastronomique. C'est vraiment cette culture du partage. Le numéro 2, je le dis tout de suite, c'est l'Italie. Ça ne surprendra non plus personne. Donc on voit bien que dans ces cultures méditerranéennes, la gastronomie est au cœur de nos relations sociales.
On parlait tout à l'heure avec Anthony Sébert, le directeur général de Répertoire Culinaire, et on parlait des produits qui étaient beaucoup plus difficiles à importer en Australie, parce que peut y avoir une certaine forme de dégoût, par exemple le foie gras. Les Australiens sont pas très fans de l'idéologie. Vous parliez de l'amour pour la gastronomie française, mais est-ce qu'il y a quand même un certain aspect de la gastronomie française qui prend pas du tout en Australie ?
Alors, ce que je vois, c'est que il y a déjà une demande pour avoir de plus en plus de produits français. Et moi, je rêve qu'on puisse davantage importer de nos fromages. Je rappelle, 1200 fromages en France. On aimerait bien en avoir ne serait-ce que 10-15% en Australie. On a beaucoup de travail à faire pour cela. Je pense aussi à notre charcuterie, que ça soit le jambon de Bayonne, la rosette de Lyon. Tout ça sont des produits pour lesquels nous travaillons d'un point de vue technique pour permettre leur importation. Donc, j'allais dire, chacun ses goûts, c'est bien normal, mais il en faut pour tous les goûts. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est apporter le maximum de notre patrimoine culinaire pour permettre aux Australiens de le découvrir, de se l'approprier et de faire des choses, parfois avec du foie gras. Hein, je veux dire, un tourneau d'eau rossini, même en Australie, c'est toujours aussi bon. N'hésitez pas à marier le meilleur des produits australiens avec les produits français et ça fait des plats absolument divins.
Et justement, une initiative comme So Friends So Good, ça sert à promouvoir ces produits français, cette gastronomie française. Comment on pourrait davantage encore mettre à l'honneur cette gastronomie française ?
Ce qui est important dans mon esprit, c'est d'une part de révéler la puissance du réseau gastronomique français en Australie. des gens qui la font vivre. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine, et c'est aussi leur rendre hommage à travers cette expérience. Mais si on veut le développer, c'est montrer aussi toute la diversité. La gastronomie française, c'est de la haute gastronomie, mais pas que. C'est aussi, j'allais dire, du déjeuner de tous les jours. Dans certains bistrots, ce sont aussi des recettes que les uns et les autres peuvent reproduire, et c'est pour ça qu'on a lancé d'ailleurs notre site sofrance-sogood.com où vous trouverez des recettes, des vidéos pour s'en inspirer. Montrer la diversité et toutes les facettes de la gastronomie française, c'est aussi un des grands buts de cette opération, parce qu'il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Justement, on a l'impression que la gastronomie française, c'est inaccessible en termes de prix, en termes de goût. Ça peut donner cette impression que c'est un petit peu élitiste. Vous êtes là pour dire non, c'est accessible à tous et sous toute forme?
C'est exactement cela. On a des restaurateurs, on a des importateurs, on a des artisans qui développent le savoir-faire français sous toutes les formes et qui permettent, quel que soit le budget dont on dispose, de pouvoir partager cette bonne chère. Et au fond, ce que l'on souhaite de toute façon, de manière au-delà de la France, c'est d'avoir de bons produits et de bien manger pour permettre à chacune et à chacun de prendre plaisir à ce besoin essentiel de tout être humain sur cette terre, de bien manger à sa faim et si possible d'y apporter une petite touche de raffinement qui permette de créer ce lien entre les hommes si important et si essentiel de nos jours.
Donc maintenant, on va aller manger les pains au chocolat du chef Pierrick Boyer. Il les a apportés justement pour le lancement de la campagne So Friends, So Good 2025. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Merci, merci à Pierrick, et puis qui a été aussi décoré l'année dernière du mérite agricole, puisque c'est aussi une facette de notre diplomatie, de pouvoir récompenser, valoriser des Français ou des Australiens qui font vivre la gastronomie française et l'excellence de nos filières. Donc allons célébrer par le goût ces très belles créations. Merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Pierre-André Humbert, ambassadeur de France en Australie. Au cours de ce lancement de la campagne So France So Good, nous avons aussi fait la connaissance d'Anthony Sébert, directeur général de Répertoire Culinaire, qui importe des produits français. Interview.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dans le cadre du lancement de la campagne So Friends So Good 2025 du 17 juin au 1er juillet, je suis en compagnie d'Anthony Sébert, le directeur général de Répertoire Culinaire. Anthony, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Répertoire Culinaire ?
Répertoire Culinaire, c'est une compagnie qui importe et distribue des produits français en Australie. Donc nous avons un rôle de master importer, ça veut dire que nous ramenons des brands en exclusivité de France que nous propageons après partout sur le territoire australien.
C'est quoi les produits français les plus distribués en Australie ?
Alors nous sommes spécialistes de la pâtisserie, donc 80% du catalogue est des matières premières de pâtisserie, telles que le chocolat, les purées de fruits, la vanille, les produits techniques aussi, pectine, etc. Et sinon, nous ramenons aussi, nous faisons partie d'un groupe, donc des produits premium dans le canard et le porc.
Il y a des produits difficiles à importer ou même totalement interdits ?
Ah oui, tout à fait. Donc les restrictions australiennes sont assez dures. On ne peut pas tout ramener, notamment le porc français, c'est très très compliqué aujourd'hui.
Est-ce que vous importez des produits parce qu'il y a une forte demande ou parce qu'il y a un manque en Australie, ou est-ce que vous importez des produits qui existent également déjà ici mais vous tablez sur le fait qu'ils soient français ?
On travaille avec pas mal de chefs français. Donc nos segments clientèle, ça va être aussi bien les manufactures, les restaurants, les hôtels et un petit peu de retail. Donc forcément, toute l'année, on discute avec ces gens-là et on écoute ce qu'ils ont besoin et on importe de France. Donc le terroir français est très apprécié.
Et inversement, est-ce qu'il y a des produits français qui sont plutôt rejeté par les Australiens ?
Alors ça arrive selon les communautés, notamment le foie gras, c'est pas toujours facile.
Pour une question de torture animale, de goût, qu'est-ce que les Australiens rejettent ?
Alors c'est plutôt l'idéologie, effectivement, la torture animale, et comme j'aime le dire souvent, le canard, pour ne prendre que cet exemple, c'est un oiseau migrateur, c'est ancestral, donc cet oiseau, il voyage de l'Europe de l'Est vers la Méditerranée tous les ans, et pour pouvoir faire ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres, Il se surnourrit, hein, donc ça vient grossir naturellement son foie, et après ça revient à la normale une fois qu'il a fini son voyage. Et l'homme, une fois sédentaire, ça commence en Égypte, n'a fait que répliquer ce processus naturel avec le gavage.
Ce qui est difficile à comprendre pour les Australiens.
Oui,
et pour certains Français.
Ça prend beaucoup de temps.
Est-ce que c'est un secteur qui est plutôt stable ou un secteur en pleine expansion, l'importation de produits gastronomiques français ?
C'est en augmentation de par la démographie qui augmente. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi d'autres circonstances, notamment l'inflation. Donc les produits haut de gamme sont moins vendus quand même. On fait beaucoup plus attention au prix maintenant.
En quelques mots, comment vous résumeriez la richesse de la gastronomie française ?
Ah, elle est exceptionnelle. Number one. Un terroir, comme je disais, le terroir, les traditions, le talent. De loin, le meilleur pays pour la gastronomie.
C'est une fierté pour vous d'importer ces produits français ?
Une fierté et un plaisir.
Vous le faites qu'en Australie ? Vous avez toujours fait ça en Australie ou vous avez déjà travaillé à l'étranger ?
Alors, pour moi, c'est en Australie. Par contre, je fais partie d'un groupe, Répertoire Culinaire. On a implanté dans 13 pays. En Asie du Sud-Est, on a ouvert les dernières Cambodge, mais aussi la France, même si tous nos suppliers, une grande majorité de nos suppliers sont en France. Nous avons ouvert la distribution, donc Répertoire Culinaire France. En Allemagne aussi, les dernières. Et sinon, c'est beaucoup Asie du Sud-Est, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, etc.
Et si on faisait une comparaison justement entre ces 13 pays, est-ce que l'Australie est très demandeur de ces importations, peut-être plus que les autres ?
Alors, c'est toujours des catalogues différents en fonction des lois, ce qu'on peut importer, ce qu'on ne peut pas, mais aussi les exclusivités des marques. On va travailler chez certaines marques en Australie qu'on ne peut pas travailler en Thaïlande parce qu'elles sont prises avec un autre distributeur. Il y a plusieurs circonstances qui font que les catalogues sont différents, les affinités, ce qui se fait aussi en manufacture sur le sol du pays. Ici, peut-être qu'il y a moins de pâtisseries qu'en Asie, moins de culture, moins de manufacture qui produit les produits pâtissiers. Donc nous, on va être plus enclin à travailler les produits de pâtisserie.
Anthony Sébert, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
C'était Salif Keita sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson « Chérie ». On marque une très courte pause, messieurs, dames, et on se retrouve tout de suite avec un concept qui pourrait vous tenter. Voyager en France autrement, de façon plus abordable et plus authentique, c'est ce que proposent deux jeunes femmes qui ont monté leur entreprise, Madame Voyage.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Eh bien aujourd'hui dans le programme en français, on a le plaisir de parler de voyage. Vous allez voir un voyage un petit peu autrement, différemment, avec deux créatrices d'une agence de voyage un petit peu particulière. On va laisser se présenter.
Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous. Je suis Anissa et je suis cofondatrice de Madame Voyage.
D'accord, et puis ?
Et moi c'est Coco, bonjour à
Coco.
Tous.
Coco, Coco comme ça, c'est le prénom. Coco.
Oui, c'est le Coco.
Comme la noix de coco.
Exactement.
Alors, on parle de voyage, on parle de voyage un petit peu différemment. Donc c'est Madame Voyage. Ça consiste en quoi, Madame Voyage ?
En fait, on s'est rendu compte que les Australiens avaient un engouement particulier pour la France, mm-hmm. pour la culture, la langue, et on voulait leur faire découvrir nos régions préférées, mais sans aller dans des endroits ultra touristiques comme Paris et Nice, comme ils nous disent souvent mm-hmm. qu'ils ont visité. On voulait leur faire découvrir d'autres choses.
Ouais, je pense qu'on avait remarqué qu'il manquait quelque chose entre les petits voyages de luxe et les gros voyages organisés comme Contiki, tout ça. Donc nous, on essaye vraiment de se placer au milieu. On veut offrir des packages de 5 mmh. à 7 jours. Pas du luxe, mais abordable, mais des super expériences personnalisées. Ce sont que des expériences qu'on a testées, nous. C'est des hôtels qu'on connaît, c'est des wine tours qu'on a organisés. On a beaucoup de référents ouais. sur place qui s'occupent de nous trouver des guides locaux. Voilà, donc tout est tested and approved by us et c'est vraiment des petits tours qu'on a concoctés nous-mêmes.
D'accord. C'est intéressant de voir que, peut-être après Covid, et on va en parler, mais on a un besoin de voyager différemment aujourd'hui. Ça a beaucoup changé dans la tête des gens. La France reste une constante. Il y a certaines qualités en France qui restent une constante, mais vous, vous proposez des voyages un petit peu différents, si je comprends bien.
Oui, on propose de voyager d'une manière un peu plus authentique, et puis on voulait vraiment montrer la véritable essence de la France. Et donc on a différents forfaits de voyage, des packages. Donc on en a un qui vous propose de découvrir la vallée de la Loire avec tous ses châteaux, cette culture très riche, c'est cette histoire, mm-hmm. et puis cette merveilleuse nourriture aussi. Ouais. On en a un autre qui est en Champagne. On propose 4 jours en Champagne où on invite les Australiens à visiter des vignerons, des petites maisons de champagne qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de connaître autrement. Et puis encore une fois, dans tous nos voyages, on leur fait découvrir des expériences culinaires inoubliables. Et on a 2 autres aussi forfaits.
Ouais, je pense que c'est important de dire qu'on essaie vraiment de les emmener hors des sentiers battus. On veut les emmener quelque part où eux, ils pourront pas chercher sur Internet, nous, ce qu'on a concocté. Ouais, moi, je peux parler des 2 packages sur lesquels j'ai travaillé parce qu'en fait, on s'est vraiment réparti la France en 2. On a coupé au milieu à Nice.
Le nord, le sud ou l'est, l'ouest,
d'accord. Ouais, on a coupé au milieu une ligne droite. Donc, Anissa se concentre sur le nord et moi sur le sud. De par notre histoire et nos affinités. Mmh. Donc moi, j'ai concocté un package à Lyon, qui est la ville dont je suis
originaire.
originaire, merci. Donc c'est un package de 5 jours avec des wine tours, des food tours.
Lyon, c'est plutôt simple de proposer.
Oui, alors,
peut-être
que
je me trompe, mais Lyon, c'est quand même la capitale des Gaules, mais capitale gastronomique.
La capitale gastronomique, absolument.
C'est plus simple de proposer des packages autour de Lyon qu'autour de Dunkerque, par exemple, je sais pas.
Oui, c'est sûr.
J'ai rien contre Dunkerque, mais dans l'imagerie générale.
Oui, c'est sûr. Après, je trouve que Lyon, c'est quand même assez underrated. Mm-hmm. Les Australiens connaissent rarement Lyon. Ils connaissent beaucoup Bordeaux et beaucoup à la mode en ce moment. Paris, évidemment, Nice, comme on disait. Mais Lyon, moi, je trouve ça juste incroyable. Et je pense que c'est vraiment underrated. Donc, non, moi, j'ai vraiment voulu leur concocter quelque chose aussi. Évidemment, la région viticole autour, il faut absolument y aller. Le Beaujolais. Donc, j'ai organisé ce petit package parce que vraiment, ça me tenait à cœur. Et il est génial. Et aussi le 4e, c'est dans les Alpes. Moi, c'est là où mes grands-parents étaient. Et donc, j'ai organisé un package dans un chalet, ça s'appelle Chalet Stay, de 7 jours où tout est inclus. Les personnes qui vous reçoivent dans le chalet vous font à manger matin, midi et soir. Ils vous emmènent sur les pistes. On a préparé une petite fondue, welcome fondue sur les pistes et une initiation au chien de traîneau. Et ça aussi, c'est un package qui me tenait à cœur parce que les Australiens, même s'ils skient pas forcément, ils aiment aller à la neige. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment un tout petit village dans le Grand Massif et c'est assez exceptionnel.
Ça s'appelle comment?
Le village?
Oui.
Je peux pas le dire parce qu'on a un deal avec un chalet. Il y en a pas beaucoup des chalets qui font des donc on le garde très secret.
En tout cas, voilà, faut
se réserver,
voilà.
Madame Voyage pour y aller.
On parlait il y a 30 secondes de la notion de voyager différemment. Vous êtes une entreprise toute neuve, hein, toute nouvellement créée, mais est-ce que vous sentez, est-ce qu'on vous dit dans la réception des clients que vous pouvez avoir, que les gens, voilà, ils ont envie de voir quelque chose de différent, surtout on veut sortir des sentiers battus, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez vous, au jour le jour?
Oui, j'ai l'impression que les gens veulent voyager d'une manière un peu plus authentique. Et puis, la France, c'est le pays le plus visité, mm-hmm. au monde, le plus touristique. Donc, et en parlant avec des locaux, par exemple, quand j'ai préparé le forfait Vallée de la Loire, j'ai parlé avec des locaux qui habitaient à Blois et à Tours, et ils me disaient c'est vrai qu'on a pas beaucoup de touristes australiens qui viennent nous voir, c'est beaucoup des gens des Européens ou des Français, parce que les Australiens je pense qu'ils pensent surtout à la France, à Paris en fait quand ils vont visiter la France.
Ouais, ou la Somme, il y a toute cette notion de la Somme,
c'est
avec
vrai, oui.
Avec les anciens champs de bataille.
Exactement,
etc.
Ouais. Ouais.
C'est la Loire n'est pas forcément au cœur des voyages australiens,
ouais,
c'est clair.
Ouais, trop souvent oublié.
Mmh, oui. Absolument.
Et pourtant, ils ont quand même une passion sur l'histoire européenne.
Il y a le château de la Belle au Bois dormant dans la région de la Loire aussi.
Oui, et voilà, on n'a pas cette architecture. Enfin, on n'a pas ça en Australie. C'est quand même un pays assez jeune. Et en France, on a des châteaux absolument extraordinaires à visiter.
Est-ce que c'est facile, pas facile, ou est-ce qu'on est obligé de flirter avec le cliché quand même dans tout ça?
Bah nous on essaye de pas flirter avec les clichés.
C'est pas forcément un mauvais
clichés.
Mot, hein. c'est pas forcément un mauvais mot, mais en tout cas pour le business.
Non, mais évidemment, après on a un champagne package, donc évidemment. Hein, mais non, on essaye de pas flirter avec le cliché. On essaye de vendre des packages, comme tu disais, authentiques, personnalisés, dans le sens où c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les avons trouvés ces petits endroits. Mais oui, évidemment, qu'il y aura des petits cheese tasting inclus un peu partout.
Mais tout le monde veut un peu son moment Emily in Paris ou.
Absolument.
Mais aussi pour reparler du package champagne, moi ce que j'ai voulu faire en le préparant, parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'adore cette région, je voulais vraiment aussi que les gens découvrent des petits vignerons. Je voulais qu'ils voient comment est-ce que le champagne est fait et puis qu'ils parlent en direct avec ces familles qui sont là depuis des générations et des générations.
Parce que le champagne c'est beaucoup plus que l'avenue de Champagne à Épernay. Il y a énormément
de
choses.
Oui.
Quand
oui,
on
oui.
y va, on comprend que c'est étendu. Oui. C'est pas juste 3-4 maisons sur l'avenue de Champagne.
Exactement.
J'y suis allé, c'est pour ça. Ah. on va parler business avec Coco. Juste oui. deux secondes. La création d'une entreprise en Australie, on a toujours cette image, c'est beaucoup plus simple qu'en France. C'est beaucoup plus facile de créer. Bon, un business, ça reste un business. Au jour le jour, c'est aussi compliqué à gérer si oui. on veut bien le faire. Pour vous, ça a été comment l'expérience du moment de la réflexion, de l'idée sur le canapé ou peu importe où l'idée vous est venue, jusqu'à la création de l'entreprise et la faire fonctionner?
Alors moi j'ai monté 4 business, donc faudrait parler des 4 individuellement, mais on n'a pas le temps. Non, moi j'ai commencé, mon premier business c'est Coco's Tours, j'organise des wine tours aux alentours du Victoria, Yarra Valley, Mornington, ça fait 5 ans que je fais ça. Coco's Tours, l'idée m'est venue très vite et je me suis un peu lancée, j'avais aucun background de business, rien du tout, hein. Moi j'étais serveuse à la base. Et oui, j'ai trouvé ça facile en Australie. Et
est-ce que c'est aussi ça l'atout de l'Australie, de se dire on a une idée, ouais. on peut l'essayer à l'échelle 1
mais surtout à Melbourne. Moi, j'ai toujours décrit mon arrivée à Melbourne. Je me suis sentie pousser des ailes. Je pouvais devenir qui je voulais et j'avais jamais pensé à commencer un business en France. Jamais de la vie. Et ici, je me suis sentie vraiment comme quelqu'un qui pouvait faire absolument ce que je voulais, quoi. Et je me suis lancée là-dedans. Et oui, j'ai trouvé ça facile. Bah, la création d'ABN, tout ça, tout ce qui est admin, c'est facile. Tout est online. Ça fait pas peur. Après, évidemment, tout ce qui est marketing, tout ça, faut travailler dessus. Moi, j'avais aucune notion de marketing, donc j'ai appris tout toute seule. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des articles dans des journaux qui m'ont énormément aidée. Et puis, les gens sont tellement welcoming. Déjà trouver des wineries participantes pour mes Coco's Tours. Les gens étaient super welcoming d'une jeune femme.
Si on veut faire la même chose à Bordeaux, ouais. Ça, c'est du mal de passer la porte.
Ouais.
Phraser, c'est peut-être pas si facile que ça de passer la porte.
Ouais, je sais pas. Moi, j'avais 25 ans, petite Coco qui parlait pas non plus très bien anglais. J'ai été très, très bien accueillie. Pareil, mes clients, je pense qu'ils adoraient le fait que je sois française, très honnêtement. Mais oui, j'ai trouvé ça. Après, il y a des up and down, évidemment, surtout pendant le Covid. J'ai quand même pas travaillé pendant un an et demi. Mmh. Mais oui, j'ai trouvé ça plus facile. Et puis en fait, moi je pars du principe que facile ou pas, il faut le tenter. Et puis là par exemple, Madame Voyage, je me suis relancée dans une aventure complètement folle. On part de rien et j'espère qu'on va arriver très haut. Mais en fait, l'expérience, elle est toujours tellement géniale que voilà.
C'est quoi l'objectif, Anissa? C'est quoi l'objectif de Madame Voyage en termes... Vous êtes présenté un objectif chiffré? Vous avez un objectif de nombre de voyages ou juste... voir comment ça se passe.
Je pense non, on n'a pas d'objectif chiffré. On a surtout un objectif d'expérience. En fait, on veut faire, on veut offrir des voyages d'exception, exceptionnels, des Australiens, faire découvrir la France. C'est vraiment ça. En fait, c'est le partage. C'est ça plus notre objectif.
C'est faire plaisir et faire plaisir aux autres.
Mm-hmm. Oui, exactement.
Et à l'avenir, dans le business plan, sans révéler quoi que ce soit, mais vous pensez faire l'inverse? Est-ce qu'il y a une idée de dire, on va peut-être emmener des petits Français ou Françaises en Australie et leur montrer le côté un petit peu...
Ouais, Anissa, on a parlé très tôt. Et c'est vrai que c'est drôle parce que moi, sur mes Coco's Tours, j'ai jamais eu de Français, par exemple, parce que c'est pas du tout un territoire que j'ai exploré. Mais Anissa voulait en parler, oui. Et puis quand même, je pense que à terme, on aimerait bien... Là, on se concentre sur des petits groupes, donc de 2 à 8 personnes. Mais à terme, on aimerait bien partir sur...
C'est pas petit, c'est boutique.
C'est boutique, sur notre site, il y a écrit boutique tours, absolument boutique, j'adore ce mot. Oui, on aimerait partir avec des corporates ou des écoles. Anissa est très proche de beaucoup d'écoles françaises ici et c'est ce qu'on aimerait faire, ouais, emmener des étudiants en France.
On aimerait faire des voyages éducatifs en France. Mais après, dans l'autre sens, oui, moi, j'adorerais.
C'est dur de leur vendre du vin, quand même.
Hein. Ah, oui. Non, c'est pas que du vin.
On s'adaptera pour eux.
Non, mais les châteaux de la Loire, par contre.
Oui. Ouais. Ouais. Mais après, oui, j'aimerais aussi proposer à des familles françaises de leur faire découvrir l'Australie. J'adorerais ça. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Les Français font pas trop le voyage, à moins qu'ils aient de la famille ici à visiter en Australie. Ils font pas vraiment le voyage. C'est quand même.
Ah, disons que c'est vrai qu'il y a, enfin, d'expérience personnelle, il y a un moment où on se dit, bon, je vais profiter de mes vacances ici plutôt que de retourner en France à chaque fois parce que, bon, voilà, il y a la famille, il y a les amis, ça peut être un poids aussi. Et de se dire, ah ben mince, à bout d'un moment, ça fait 9 ans que je suis là et ça fait 9 ans que je suis pas rentré. Oui. Enfin, il y a aussi ce truc-là. Donc c'est aussi, c'est intéressant comme réflexion, ça. Donc, ouais, on peut vous souhaiter quoi pour l'année à venir, 2024?
Plein de voyages.
Plein de voyages.
Plein de voyages, plein de bookings. Aussi, enfin, on a créé ces forfaits-là pour donner un peu un guide, mais on peut faire du voyage sur mesure. On veut vraiment faire plaisir aux gens et leur faire découvrir notre merveilleux pays. Donc, si quelqu'un nous contacte en disant, je veux faire un voyage un peu fou, j'aimerais faire ça, ça, ça.
Dunkerque.
On le fait. Voilà, bah, Dunkerque. Voilà, on prépare
ça. Et pourquoi pas?
En plus, c'est joli, Dunkerque. Comme... ok, vous nous rappelez le site internet?
Ouais, www.madamevoyage.com.au. Je l'ai jamais fait en français. Voilà.
Mais il y a un début à tout. Merci d'être passé nous voir.
Merci beaucoup Christophe. À vous, Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Tu me blesses, me meurtris, et te joues de l'adieu.
La voix reconnaissable parmi mille de Charles Aznavour, parce que tu crois. SBS Examines se penchait il y a 2 semaines sur la Semaine nationale de la réconciliation. Nous avons décidé aujourd'hui de republier cet épisode.
C'est la Semaine nationale de la réconciliation, un moment propice pour les non-autochtones d'écouter et d'apprendre davantage sur les peuples et les cultures des aborigènes, ainsi que des insulaires du détroit de Torres. Dans cet épisode de SBS Examines, nous nous penchons sur l'importance de l'engagement des communautés multiculturelles dans le processus de réconciliation.
I came to Australia and I quickly learned about the plights of the indigenous people.
C'était Alfred Peck, un immigré originaire d'Indonésie et installé en Australie. Il explique qu'il était motivé d'en apprendre davantage sur les communautés aborigènes dès par sa profession.
In 2017, I was a 23-year-old. I was a freelance journalist. I was looking to expand sort of my horizons, especially deepening the knowledge of the indigenous plights and sort of stories in the country.
À cette époque, des manifestations avaient lieu près de Perth, en Australie occidentale, sur l'île de Harrison, illégalement connue sous le nom de Matagaup dans la langue des peuples Noongar. Peu avant, l'île avait été le théâtre de manifestations contre un accord sur le titre aborigène d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. Ces mêmes manifestations s'opposaient à la fermeture des communautés aborigènes éloignées. D'autres mouvements populaires avaient lieu en protestation contre des affirmations selon lesquelles le gouvernement d'Australie occidentale privilégiait les migrants au détriment des sans-abri de son territoire.
I didn't know that as an immigrant, you are also a benefactor of the dispossession of Australia's land. When I became Australian, that was not taught in the context of what it means to be Australian. I didn't truly understand the extent of what the challenges were until I started working with Clinton Pryor. And that was a watershed moment for me.
L'un des migrants de Matagaup, Clinton Pryor, avait 27 ans à l'époque.
Our whole year, the West Australian Police, they wanted us to move on and to stop the protest and just didn't want to give up the fight. And that's when I said to myself, you know what, I'm going to walk from Perth to Canberra. And I'm going to continue fighting and protesting.
Alfred voulait contribuer à faire connaître l'histoire de Clinton, raison pour laquelle il l'a contacté.
He wanted to share it more into the migrant community by documenting it, but he also wanted to learn himself. It's that way as human beings, as like you notice something or someone doing something, but you don't know how to approach them yet until you actually take that first step. And that's what he did. He took that first step to message me and I said, let's meet up.
Les deux se sont liés d'amitié alors qu'Alfred documentait le parcours de Clinton sur une épopée de 6000 kilometers. Un an plus tard, ils sont arrivés ensemble à Canberra.
I was helping the documentation side of it, and to witness that, to be part of that, that was beautiful.
Après ce périple, Clinton s'est entretenu à Canberra avec des politiciens et d'autres activistes pendant quelques jours. Cependant, il a quitté la capitale fédérale, désabusé.
But truthfully, the walk inspired millions and millions of people around the country and around the world. It takes someone just to stand up for what they believe in and follow their heart, and people can see that.
Pour Clinton, il est important de soutenir le processus de réconciliation.
It's about bringing Indigenous and Torres Strait Islanders and Australian people together and to build a bridge where it's a way for all of us to move forward as a multicultural country.
Le processus de réconciliation en Australie remonte à 1938, suite à la première manifestation du jour des deuils qui a eu lieu le 26 janvier cette année-là. C'est en 1996 que le Conseil pour la réconciliation autochtone a lancé la première semaine nationale de la réconciliation en Australie. Ian Ham, un homme Yorta Yorta, affirme que le processus prend différentes formes à travers l'Australie.
Reconciliation has moved from being, if you like, an issue just kind of sat by itself to now having to juggle with and being seen in the context of a whole bunch of other things going on. Some migrant communities who are very much supportive of the propositions of the referendum because they come from places where they had been a minority that had been oppressed. And while they weren't completely au fait with the detail of the Australian story, as it relates to Aboriginal and non-Aboriginal Australians, they fundamentally understood what this was about and saw how can these people as a minority, particularly those who'd been here for so long prior to colonisation, how can they be treated this way? Equally though, there were migrant communities who'd come from different backgrounds, perhaps where they weren't subject to oppression, weren't minorities, but had come to Australia seeking an uplift in their economic and social positioning, which is a fair enough thing, who perhaps didn't appreciate it. And I recall there were times when people said, I came here with nothing, which really wasn't nothing, and I've got to where I am, why can't Aboriginal people do it?
Ian Ham souligne aussi que pour avancer dans la réconciliation, il faut bien saisir la complexité des communautés d'immigrés.
So you really have to contextualise and understand who you're talking to if you want them to hear. And you've got to understand where they're from as much as you want them to understand where you're from.
Shankar Kasyanathan est chercheur principal adjoint au Centre national pour la réconciliation, la vérité et la justice.
The heart of reconciliation is actually allyship. We become a part of this Australian story, which brings with responsibility about how we build relationships going forward.
Issu de la communauté tamoule, Shankar Kasyanathan a fui la guerre civile dans son Sri Lanka natal pour s'installer en Australie. À l'instar d'Alfred, Shankar estime qu'il est crucial pour les communautés multiculturelles de s'engager dans le processus de réconciliation.
Many migrant and refugee communities understand dispossession. We understand forced displacement. We understand cultural erasure. But we don't always make that link between our stories and our histories of our diaspora, and the stories of now, our First Nations people. So I think once that connection is made, it becomes a powerful foundation for ongoing mutual support and allyship that I think is at the core of genuine friendship.
Cet épisode de SBS Examines a été produit en anglais par Rachel Knowles, Nicolas McCaskill et Olivia Di Iorio en anglais et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French.
Et te faire l'amour en parlant liberté au milieu.
Une autre voix, elle aussi reconnaissable parmi mille, celle de Daniel Balavoine, Dieu que l'amour est triste, chanson sortie en 1982. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Le journal sera présenté par Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de passer un très beau dimanche après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.